Ce que je vous propose maintenant, après cette pause, c'est d'aborder dans votre plan le grand 4, qui va porter sur quelques notions qui aujourd'hui, dans notre compréhension du vivant, quand je dis d'ailleurs compréhension du vivant, ce n'est pas que des animaux, c'est de manière beaucoup plus vaste, nous permettent de pouvoir poser un statut qui ne soit plus qu'un point de vue philosophique ou culturel sur les animaux. Pour progresser logiquement par rapport à ça, il faut en quelque sorte revenir à l'origine. Et l'origine fondamentale, ce n'est pas tel ou tel animal, ce n'est pas, je ne sais pas, les tardigrades ou les coléoptères. Le premier niveau fondamental, c'est la question des mécanismes qui font que les organismes vivants sont des organismes vivants au niveau des éléments biochimiques fondamentaux. Et là, la notion fondamentale que j'ai déjà présentée tout à l'heure, c'est le principe de l'unité du vivant, qui fait que, par exemple, que ce soit au point de vue du principe de l'ADN, on va le retrouver dans toutes les variétés d'êtres vivants, qu'ils soient animaux ou pas, que ce soit des archées, des bactéries, que ce soit voilà, des animaux, des végétaux, l'ADN repose sur les mêmes processus de codage génétique. Il n'y a pas une ADN différente pour les végétaux ou pour les animaux. Il n'y a pas de l'ADN pour l'homme et de l'ADN, je ne sais pas, pour les pingouins. L'ADN, ce sont toujours les mêmes acides aminés, c'est juste ensuite leur ordre qui va changer. Mais au point de vue des mécanismes qui font, les mécanismes génétiques à l'œuvre à l'intérieur des cellules, lorsque vous trouvez de l'ADN, de l'ARN et tous les processus qui font la machinerie biologique, quand vous trouvez toute la machinerie cellulaire, ce sont les mêmes processus qui sont à l'œuvre, quelles que soient les espèces. Quand je dis cela, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence si vous êtes avec des eucaryotes, des prokaryotes, si vous avez des cellules végétales ou d'autres types de cellules. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est que les fondamentaux biochimiques, vous allez retrouver les mêmes structures cellulaires, vous allez retrouver des logiques similaires sur le fonctionnement de l'ADN, puisque ça, aujourd'hui, nous le savons, toutes les espèces vivantes aujourd'hui sont toutes des espèces dérivées les unes des autres depuis l'apparition du vivant sur notre planète. Donc là, c'est un petit peu un rappel de ce qu'on avait vu l'année dernière. Toutes les espèces vivantes sont apparentées. Ce n'est ensuite que le degré de cousinage qui est plus ou moins grand. Ce qui fait qu'entre deux humains, il est relativement proche, mais il existe bien entre vous et les chênes. Il existe bien entre vous et des bactéries. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi on retrouve des types de gènes aussi bien parfois dans des organismes végétaux, animaux, ou du côté de bactéries, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est hérité d'ancêtres communs. Qui plus est, en mettant en avant cette idée d'unité du vivant, au-delà des considérations au point de vue de la biogénèse, au point de vue des mécanismes biotiques qui font le vivant, c'est surtout pour réfuter toute idée de règne. Il n'y a pas de règne végétal, il n'y a pas de règne animal, il n'y a pas de règne humain, ces distinctions, et encore moins de règne minéral, ces distinctions sont seulement des découpages intuitifs de la réalité par l'homme dans une approche extrêmement simpliste de la réalité, que je peux comprendre comme telle, parce que de prime abord, je dirais les animaux vont bouger, les végétaux ne bougent pas, mais ça, ce n'est qu'en apparence dans une perception extrêmement primaire. Bien sûr que les végétaux bougent. Sauf qu'en général, ils bougent beaucoup plus lentement, donc je ne vois pas les mouvements, soit durs, soit sur de plus long terme, des végétaux, mais on peut comprendre qu'évidemment, tant qu'on n'avait pas des caméras qui permettent de faire une image par jour ou par heure pour voir le mouvement des plantes, c'était difficile à saisir. Donc je peux comprendre historiquement certaines hypothèses qui ont été avancées, surtout que le mode de vie des végétaux nous paraît très différent du mode de vie des animaux. Les végétaux, grâce à leur capacité de photosynthèse, vont être capables de produire leur propre matière carbonée en l'emprenant dans l'atmosphère. Ce que nous, en tant qu'animaux, nous ne pouvons pas faire. Nous sommes obligés, nous, pour cela, de nous nourrir. Donc c'est une autre manière d'acquérir de l'énergie, ce qui fait qu'on peut comprendre le fait qu'à d'autres époques, on ait pensé qu'il y avait une différence de nature en soi entre les uns et les autres. Donc ça, c'est l'idée de l'unité du vivant, quelles que soient les espèces animales. Et en fait, je devrais dire plutôt, quelles que soient en fait les espèces vivantes. Le fait que ce soit dans l'eau, que ce soit sur Terre, que ce soit dans l'air, que ce soit dans le sol ou autre, ou demain dans l'espace, pourquoi pas, en tout cas, pour peu que ce soit rattaché au phylum du vivant sur Terre, on a ce principe d'unité du vivant. Ce qui fait que tous les êtres vivants sont issus des mêmes processus naturels et matériels, ça c'est très important, au point de vue de la biogénèse et au point de vue des processus biotiques. Je souligne là vraiment la notion de processus naturel et de processus matériel. Car ce qui nous fait, nous, en tant qu'Homo sapiens vivants, capables de penser, de créer, d'imaginer, d'aller vers toutes les œuvres de l'esprit, mathématiques, sciences, et aussi les joies de Nabila, repose, au point de vue des mécanismes cellulaires, sur les mêmes processus, enjeux, comme phénomènes matériels et naturels, quand vous êtes du côté des protistes dont nous parlions tout à l'heure, ou du côté de bactéries ou d'organismes de ce type-là. Ce ne sera pas forcément les mêmes types d'organisation cellulaire, ce ne sera pas forcément les mêmes types d'organisation, justement, multicellulaire quand on aura des organismes, mais ce seront toujours des phénomènes naturels et matériels reposant sur uniquement les lois physico-chimiques. C'est pour ça que tous les êtres vivants sont le résultat des hasards de l'évolution, des hasards bio-évolutifs. Il n'y a en ce sens-là aucun destin particulier pour aucune espèce. Donc toutes les espèces, ça c'est ce que je vous avais notamment expliqué l'année dernière, toutes les espèces existent, nous y compris, en raison uniquement des hasards de l'évolution. Il n'y a ni nécessité ni loi naturelle dans l'émergence des espèces. Bref, si une espèce existe, ce n'est pas qu'elle devait exister, c'est juste parce que factuellement, l'évolution du phylum dont elle est issue est arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qui fait que le vivant est régi par une histoire, pas par des lois, sous cet angle-là. Ensuite, la notion suivante que l'on peut mettre en avant, c'est que tous les êtres vivants existent pour eux-mêmes, mais dire cela ne suffit pas. Il faut aussi préciser qu'ils sont leur propre fin et qu'ils poursuivent leur propre fin. Ça veut dire que tout être vivant existe pour lui-même, il n'existe pas pour l'écosystème, il n'existe pas pour plaire à nous ou à je ne sais qui, il n'existe pas pour notre intérêt, il existe simplement en vertu de ce qui le fait exister. Il est sa propre fin. Qu'ensuite il participe à un écosystème, oui, mais ça c'est un deuxième niveau, c'est une conséquence, ce n'est pas une cause. Les végétaux produisent de l'oxygène, ils ne sont pas faits pour produire de l'oxygène pour l'atmosphère terrestre. Il faut à ce niveau-là déconstruire tout finalisme au point de vue de la manière de penser les espèces. Donc tous les êtres vivants existent pour eux-mêmes, sont leur propre fin, et poursuivent donc leur propre fin. Comme vous et moi, nous poursuivons nos propres fins, c'est-à-dire ce qui va être important pour nous. Et ça, on peut considérer que c'est un point commun depuis les bactéries jusqu'à vous. Sauf que vous, évidemment, vous pourrez le poser à travers des réflexions philosophiques, au sens, justement, du sens de votre vie. Mais tous les êtres vivants poursuivent leur propre fin. Les gazelles poursuivent leur propre fin, les lions poursuivent leur propre fin, bref, les insectes poursuivent leur propre fin, les abeilles poursuivent leur propre fin. En fonction de ce qu'est un organisme vivant, il a ses propres fins, liées à ce qu'il est. Et dans certains cas, ce n'est pas que des besoins matériels. Ce n'est pas que des besoins, dans certains cas, territoriaux. Ça peut être des besoins affectifs, psychologiques et autres. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'espèce, ça veut dire que c'est la fin que l'individu recherche pour satisfaire sa propre existence, pas en vertu d'autre chose que de lui-même. Donc là, c'est une logique strictement et absolument matérialiste, naturaliste et individualiste dans le fonctionnement des organismes vivants. Le fait que nous fassions écosystème planétaire, c'est une chose, ça ne veut pas dire que nous existons pour la Terre. Ça veut dire juste que nous collaborons indirectement à un fonctionnement qui nous dépasse, mais qu'on n'est pas fait pour ça. Aucune espèce n'est faite pour cet écosystème. C'est une conséquence et non un but. L'écosystème planétaire n'est pas à l'origine des espèces, il en est la conséquence. Il faut même, dans ce sens-là, inverser. C'est parce que des espèces de végétaux ou d'algues, plutôt, ont commencé à libérer de l'oxygène dans l'atmosphère qu'on est passé avec un écosystème atmosphérique dominé par l'oxygène. Ce n'est pas la cause de la biosphère que nous connaissons, c'en est la conséquence. La couche d'ozone qui existe n'est pas la fait pour nous permettre d'exister, c'est parce qu'il y a eu des organismes qui ont, avec la photosynthèse, rejeté de l'oxygène atmosphérique, que l'oxygène atmosphérique, dégradé par les rayons du soleil, a formé une couche d'ozone. Donc c'est parce qu'on est passé à une atmosphère à oxygène, aérobie, que des organismes de ce type-là, capables de consommer de l'oxygène, ont pu se développer, ils ont pu profiter d'une niche écologique ouverte. Tout ce que je viens de vous dire signifie qu'il n'y a pas de dichotomie entre l'animalité et l'humanité, il n'y a pas de fossé ontologique entre l'animal et l'homme, tout simplement parce que l'homme est un animal comme les autres. Comme disait Derrida, dans un ouvrage d'ailleurs que vous avez référencé dans votre bibliographie, qui est son dernier ouvrage, qui est celui d'ailleurs qui est publié juste après qu'il soit mort, qui est posthume, Derrida critiquait l'idée même que l'on puisse parler en termes génériques de l'animal et de l'homme. Parce qu'effectivement, derrière le terme animal et homme, ce sont des généralités qui nous servent à parler, mais qui la plupart du temps ne correspondent pas à une réalité effective, car il n'y a pas d'un côté l'animal, l'animalité. En fait, c'est quoi l'animalité? C'est tout ce que nous percevons comme du non-nous, nous les êtres humains, par opposition à nous. En d'autres termes, le mot animal, il est fondé d'abord, la notion d'animalité, non pas par une définition biologique qui existe si on se place de ce côté-là, mais par simplement une sorte de vision qui se comprend dans son élaboration, qui fait une démarcation entre ce que l'on va percevoir être du nous, c'est-à-dire de l'humain, à tort ou à raison, et ensuite tout ce qui ne sera pas, pour nous, de l'humain. C'est pour ça que la notion d'animal n'est pas une catégorie qui désigne en soi ce que sont les êtres et les choses. C'est un concept classificateur que nous avons élaboré, pour faire quoi? Pour nous permettre de catégoriser les autres êtres vivants que ceux que l'on reconnaît sous l'appellation d'humanité. Ce qui fait qu'à l'occasion, certains ne seront pas mis dans le cercle de l'humanité aussi, si vous voyez à quoi je fais référence, surtout au temps joyeux des colonies ou des situations de cet ordre-là. C'est pour ça que personnellement, au niveau philosophique, je suis effectivement partisan du fait d'abandonner la notion d'animal avec en quelque sorte un A majuscule ou d'animalité comme telle, comme si d'ailleurs il y avait unité de l'animalité. Parce que de quelle animalité parle-t-on? Celle des babouins, celle des tardigrades, celle des coléoptères, celle de l'ornithorynque, celle, je ne sais pas, des marsupiaux? De quelle animalité parle-t-on? Parle-t-on des organismes marins? Ce terme animalité, c'est un concept fourre-tout. Quand nous le posons comme grande distinction pour penser le monde et surtout pour penser l'humanité. Parce qu'en fait, ce n'est qu'un concept miroir, mais miroir inversé, comme je vous l'ai dit, de l'idée que l'on se fait de l'humanité. Parle-t-on d'animal de compagnie? Parle-t-on d'animal sauvage? Rien de cela n'est précisé, comme s'il y avait une unité, entre guillemets, comme si tous les animaux avaient les mêmes comportements, les mêmes fonctionnements, étaient des êtres comparables. Quand nous parlons d'animalité, est-ce que nous parlons d'espèces qui vivent en groupe, en collectivité, en société, ou est-ce que nous parlons d'espèces qui vivent seules? Si vous avez, par exemple, des abeilles qui vivent en communauté, hein, l'abeille commune que nous connaissons, qui est utilisée par l'homme depuis des milliers d'années, mais il existe aussi des abeilles sauvages, c'est comme ça qu'on les appelle, qui ne vivent pas en communauté, qui vivent seules. C'est pour ça que souvent, sous cette appellation de l'animal ou de l'animalité, c'est une sorte de terme générique qui efface la diversité de la réalité des espèces qui concrètement ensuite existent. Et même, je dirais, plus que les espèces, les individus animaux. Puisque la notion d'espèce en réalité n'existe pas d'un point de vue biologique, la seule chose qui existe sont des individus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au point de vue de l'anthropologie, l'homme est un animal comme les autres, c'est-à-dire inclus dans l'animalité et non pas séparé, distinct ou exclu de l'animalité. C'est pour ça que dans vos documents d'accompagnement, vous trouverez quelques schémas qui ne sont pas des schémas qui d'habitude sont utilisés quand on parle des espèces, qui sont à ce moment-là plutôt des schémas arborescents. Ce sont des schémas que j'ai fait là pour que vous compreniez que quand nous parlons de l'être humain, il est en fait inclus dans le cadre général de l'animalité. Donc voilà, nous appartenons à la grande famille des mammifères, et à l'intérieur de la grande famille des mammifères, nous sommes dans une sorte de sous-famille qui va être celle des primates, et à l'intérieur des primates, nous sommes dans une branche bien particulière dont les plus proches représentants sont les gorilles, les bonobos, les chimpanzés et les orangs-outans, plus les gibbons un peu plus éloignés. Donc nous sommes dans une logique d'inclusion et non pas de séparation, ce qui fait que l'animal humain, j'aime bien cette expression, nous les homo sapiens, bien sûr que nous sommes différents des autres animaux. Vous n'avez pas la tête d'un hippopotame, vous ne ressemblez pas à un hippocampe. Donc oui, vous êtes différente des autres espèces animales. Mais vous êtes différente des autres espèces animales, non pas parce que vous êtes des humains, mais vous êtes différente comme toutes les espèces animales sont différentes des autres espèces animales. C'est donc une logique de différence horizontale et non pas hiérarchique. Donc bien sûr, les hyènes, ce n'est pas des lions. Donc bien sûr, les lions, ce n'est pas des tigres. Donc bien sûr, les chacals, ce n'est pas des gazelles. Donc bien sûr que quand on dit que ces espèces-là appartiennent à l'animalité, ça n'exclut pas des différences. Mais en fait, la logique de différence, elle ne se fait pas parce qu'il y aurait d'un côté des animaux, de l'autre côté des non-animaux, mais parce qu'au sein même de l'ensemble des espèces qu'on qualifie d'animales, il y a énormément de différences en raison des processus, évolutifs qui ont différencié ces espèces. Donc elles sont égales, si je puis dire, en animalité, même si ensuite elles sont toutes différentes en fonction des critères qui les caractérisent. Ce qui fait que nous, les Homo sapiens, nous sommes différents des autres animaux, non pas parce que nous avons une essence humaine différente, mais simplement, comme pour tous les animaux, parce que la somme de nos différentes capacités produit un résultat différent. Et là, j'attire votre attention sur cette notion. L'homme n'est pas homme parce qu'il serait un bloc. Nous sommes humains par l'addition, par la synergie même plus précisément, d'un ensemble de facultés. La bipédie, la main, le cerveau, la mémoire, les capacités cognitives, la vision, pourquoi pas, le fait qu'on soit un singe nu, etc., etc. Donc on peut faire une longue liste. Or, chacune de ces facultés contribue à nous définir en tant qu'être humain, mais aucune de ces facultés n'est une faculté humaine. Ce qui fait l'humain, c'est l'interaction de toutes ces facultés. Tout comme pour définir un éléphant, qu'est-ce qui fait l'éléphant? La trompe ou la défense? Ce qui fait l'éléphant, c'est la taille, une peau, des oreilles d'une certaine caractéristique, les défenses d'une certaine longueur et pas d'une autre longueur, une trompe, etc., etc., des modes de vie, un écosystème dans lequel il participe, un fonctionnement social et pas individuel. Ce sont toutes ces facultés qui, quand vous les additionnez, forment l'animal que nous désignons sous le nom éléphant. Et nous, en tant qu'Homo sapiens, c'est pareil. Aucune de nos facultés n'est en soi une faculté humaine. Ce sont des facultés que nous avons. Donc souvent on les appelle humaines parce que c'est nous qui les avons, mais en tant que telles, aucune de nos facultés ne sont des facultés spécifiquement humaines. La bipédie n'est pas spécifiquement humaine. La main n'est pas spécifiquement humaine. La mémoire est-elle spécifiquement humaine? Bien sûr que non, du côté des capacités cognitives. Est-ce que les capacités d'attention sont des facultés spécifiquement humaines? La réponse aussi, c'est non. Est-ce que par exemple le fait d'être un omnivore est une faculté spécifiquement humaine? La réponse est évidemment non, les cochons sont aussi omnivores. Ou si vous me dites la bipédie, là je vais revisiter Diogène répondant à Platon, à la question « qu'est-ce que l'homme ?» quand Platon disait « c'est un bipède nu », les poulets aussi sont bipèdes, si on va sous cet angle-là. Ce qui fait qu'on peut représenter la chose de la manière suivante. Si on veut définir telle espèce vivante, nous les Homo sapiens, ou telle autre espèce animale, il n'y a pas un en soi du style ça, regardez, voilà. Il y aurait un en soi, non. Ce qui va nous définir comme Homo sapiens, ce n'est pas ça, ça va être telle faculté, telle faculté, telle faculté, telle faculté, telle faculté, telle caractéristique morphologique, la forme des dents, la forme de la mâchoire, le volume crânien, ceci ou cela. Or, toutes ces facultés, qu'elles soient physiques ou cognitives, elles ne sont pas toutes apparues en même temps. Pour que nous ayons, par exemple, au point de vue des mâchoires, la forme des mâchoires en nu que nous avons, nous, ou pour avoir les cupules des dents qui sont des caractéristiques de notre morphologie, il y a parfois des millions d'années, au point de vue de ce qu'on appelle l'hominisation, pour acquérir ces facultés. Donc Homo sapiens n'est pas apparu un jour tel Vénus sortant, excusez-moi, Aphrodite. Restons avec les Grecs, tel Aphrodite sortant, je ne sais pas, de la Rift Valley en disant « Bonjour, et c'est Homo, voici l'Homo sapiens ». Pas du tout. Il a fallu des millions d'années pour que chacune des caractéristiques qui nous caractérisent sous cet angle-là soit acquise par des phénomènes évolutifs. Donc ce n'est pas l'ensemble de l'organisme de l'homme qui a évolué quand on est passé d'Homo, par exemple, ergaster vers Homo erectus, ce sont quelques caractéristiques, peut-être par-ci au niveau des hanches, peut-être par-ci au niveau de la bipédie, peut-être un peu de ce côté-là, du côté, par exemple, du volume crânien. Et puis, un peu plus tard, dans l'hominisation, telle autre caractéristique est apparue. Or, si on ne comprend pas ça, on va croire que ce qui définit un être vivant, ce serait par un non-soi, alors qu'en réalité, c'est l'interaction de toutes ces facultés les unes avec les autres, c'est pour ça que j'ai parlé de synergie, qui définissent un organisme vivant. Donc oui, l'homme est bipède, mais la bipédie ne suffit pas à définir l'homme. Sinon, les autruches sont aussi des organismes bipèdes. Donc oui, l'homme utilise des outils. Mais ça ne suffit pas à définir l'homme parce que c'est une des capacités de l'homme, mais ce n'est pas la seule. Et donc si nous voulons parler de l'homme, ou si demain nous voulons parler des girafes, ou parler de n'importe quelle espèce, c'est l'addition de ces caractéristiques physiologiques, comportementales, éthologiques, même c'est très important à rappeler les modes de vie, parce que vous pouvez avoir des espèces qui ont la même physiologie, la même biologie, mais qui peuvent avoir des modes de vie différenciés, ou les mêmes modes d'alimentation. Ce qui fait que vous prolongez cela au terme de quelques millions d'années et vous aurez une spéciation qui interviendra. Alors qu'au départ, ils étaient pratiquement identiques. Il suffit simplement que l'un chasse le jour ou que l'autre chasse la nuit pour que ce soit à l'origine d'un processus de spéciation. Donc c'est pour ça que ce n'est pas simplement les caractéristiques morphologiques, c'est aussi les caractéristiques éthologiques qui vont être stratégiques. Ce qui fait que toutes les facultés que nous avons, nous les Homo sapiens, sont en fait des facultés animales déjà présentes dans notre espèce. Capacité cognitive, capacité de mémorisation, capacité d'attention, capacité de communication, etc., etc. Toutes ces capacités-là existent dans d'autres espèces animales. Dans certains cas très proches de nous et dans d'autres cas très éloignés. Parce qu'il peut y avoir des évolutions qui sont convergentes, hein, au point de vue des mécanismes évolutifs. Ce que je viens de vous expliquer signifie le fait suivant. Aucune compétence humaine n'est à la base spécifiquement humaine. Ce sont toutes des capacités qu'on trouve déjà dans l'animalité. Ce qui va ensuite intervenir, c'est que par des processus de spéciation qui vont amener à notre hominisation, c'est-à-dire à l'élaboration de nos caractères, ces facultés-là vont être amplifiées dans leurs capacités. Donc par exemple, nous avons des capacités cognitives qui sont similaires à celles qu'on trouve chez les autres primates comme les bonobos, les chimpanzés, les gorilles, sauf que les nôtres vont être beaucoup plus développées. Ce n'est donc pas par leur nature que nos facultés sont différentes de celles des autres animaux, c'est par l'amplitude de leur développement. Un peu au sens d'un hyper-développement, comme on peut le voir dans certains cas au point de vue de la morphologie de certaines espèces. C'est pour ça que nos facultés, si différentes en apparence de certaines espèces animales, ne doivent pas être conçues comme des facultés que n'ont pas les animaux, mais plutôt des facultés que nous avons plus particulièrement développées. Et là, évidemment, je pense à des facultés du côté de la cognition, de la capacité de représentation mentale, d'abstraction, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas en faire, ça veut dire que nous sommes beaucoup plus spécialisés pour faire ce type de tâches cognitives. Et cela, pas parce qu'un beau jour, un doigt céleste est descendu tel le monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace sur notre planète, mais en raison des processus évolutifs qui ont amené à la spéciation de notre espèce, autant que les interactions des développements culturels qui ont orienté l'évolution de l'espèce humaine. Ce qui fait que de plus en plus de compétences cognitives qu'antérieurement on pensait être réservées à l'homme, donc inaccessibles aux autres espèces animales, bien on s'est rendu compte qu'on pouvait en trouver du côté d'espèces animales. Que ce soit par exemple le rire et le sens de l'humour chez des mammifères, chez des primates, mais aussi chez le chien, chez le rat, ou dans d'autres espèces auxquelles on ne pense pas, qui sont capables d'avoir la notion de dérision, par exemple. Il faut ensuite, évidemment, le contextualiser par rapport au fonctionnement de la dite espèce. On s'est rendu compte, par exemple, du côté des grands singes, du côté des primates, qu'ils connaissaient parfaitement toutes les stratégies que vous allez pouvoir voir déployer d'ici 2017 pour la campagne présidentielle. Les chimpanzés connaissent la notion de coup d'État, de trahison, d'alliance, de corruption, de meurtre, de tricherie, de truanderie. Vas-y que je vais faire quelque chose, mais de telle manière à ce que tu ne le vois pas pendant que je le fais. Et ne croyez pas que ce soit que les chimpanzés mâles. Même les chimpanzés femelles sont capables de retenir leurs expressions vocales quand elles font la chose. Quand il s'agit d'avoir un rapport sexuel avec un mâle avec lequel elles ne sont pas censées avoir des relations sexuelles, pendant que le mâle dominant, il a le dos tourné. Sous cet angle-là, vous verrez que beaucoup de nos comportements, certes, ce sont des comportements humains parce que les humains les font, mais ce ne sont peut-être pas des comportements spécifiques à l'être humain. Alors évidemment, là, j'ai fait exprès de prendre quelque chose qui fait rigoler, c'est-à-dire les notions de mensonge, les notions de duplicité, de tromperie. Car pour pouvoir mentir, tromper, ça demande des capacités cognitives capables de penser l'autre et de penser éventuellement la réaction de l'autre à ce que l'on va faire. Ce que l'on peut déduire de ce que je viens de vous présenter, c'est qu'en fait, aucune faculté humaine n'est humaine dans une sorte d'en soi. Les facultés que nous avons, elles sont humaines parce que nous les avons en tant qu'êtres humains, mais sur le principe, soit elles sont déjà partagées par d'autres animaux, soit elles pourraient être partagées comme facultés par d'autres animaux si les processus évolutifs les concernant les avaient amenées dans de telles directions. Parce que ça, c'est un point qui est aussi important à avoir à l'esprit. L'origine des processus qui vont amener dans notre espèce à telle ou telle capacité cognitive, à telle ou telle faculté en apparence spécifiquement humaine, en fait, n'ont qu'une seule origine, qui est la même que les facultés de toutes les autres espèces vivantes. C'est-à-dire, c'est à chaque fois le résultat de processus de sélection naturelle. C'est le résultat de processus de différenciation et de spéciation. Ce qui fait que, sur le principe, toutes les facultés que nous avons pourront peut-être demain apparaître dans de nouvelles familles d'espèces si leur processus évolutif les amène à des développements dans ces orientations-là, dans ces axes-là. Ce n'est pas une obligation, mais ça veut dire par exemple que pourquoi pas dans 5 millions d'années, dans 10 millions d'années, peut-être à partir de loutres ou peut-être à partir de pieuvres, on verra apparaître des espèces vivantes nouvelles dotées de capacités cognitives, par exemple, comparables aux nôtres. Sur beaucoup de capacités cognitives, par exemple, si on se place du côté des mammifères marins, notamment les dauphins ou les orques surtout, ils sont extrêmement proches de nous. Sauf que, évidemment, comme eux vivent dans les océans, sauf que comme eux n'ont pas de mains, ils n'ont pas pu investir la production d'outils. Et encore, combien de fois on a vu des dauphins se servir d'objets pour pouvoir réaliser des opérations, jusqu'à par exemple utiliser des éponges pour se protéger le rostre, pour fouiller dans le sable, parce qu'ils ont le rostre un petit peu douillet, hein, sensible comme nous tous, et qu'ils se sont rendus compte qu'en mettant une éponge dessus, ça ne les empêchait pas d'utiliser l'écholocation, mais surtout ça leur évitait de se frotter le nez. Voilà. Et donc ils vont chercher une éponge, ils se la mettent comme vous verriez un clown qui mettrait un nez rouge, là, et comme ça ils vont fouiller dans le sable à la recherche des poissons dont ils se nourrissent. Ce qui fait que maintenant, si je laisse de côté ces faits concernant le fonctionnement des espèces vivantes et les mécanismes finalement d'apparition des espèces, si on va vers les conséquences philosophiques, eh bien, en grande partie, ce sont des déductions relativement simples qui s'imposent à partir de ces découvertes, de ces connaissances-là que nous avons désormais sur le vivant. À savoir, tout d'abord, première notion qui est très importante philosophiquement, c'est ce que personnellement j'appelle l'autonomie ontologique. L'animal ne s'explique pas par l'homme, l'animal doit s'expliquer par lui-même. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, pour comprendre l'animal, de le comparer à qui? De le comparer à l'homme. Ou de se poser la question, est-ce qu'il nous est utile à nous ou pas? Bien sûr, on pourra toujours trouver une utilité aux pâquerettes. Mais les pâquerettes n'existent pas pour avoir d'utilité pour l'homme. Les pâquerettes existent simplement pour mener quoi? Leur vie de pâquerette. D'où cette idée d'autonomie ontologique, car les êtres vivants existent pour eux-mêmes, c'est déjà ce que je vous disais tout à l'heure, ils existent pour eux-mêmes, par eux-mêmes, et pour poursuivre leurs propres fins. Ce qui fait que, au lieu d'expliquer l'animal par l'homme, c'est là, si vous voulez, une sorte des grandes mutations de la révolution animale, nous savons aujourd'hui que ce n'est pas l'homme qui explique l'animal, c'est l'animal, l'animalité au sens commun, qui explique l'homme, puisque l'homme, avant d'être homme, il est quoi? Et d'ailleurs, il est toujours, et il sera toujours, un animal. Car animal ne veut pas dire bestial, animal ne veut pas dire immoral, animal ne veut pas dire comportement pulsionnel, instinctif, qui serait sans capacité de réflexion, sans capacité, si vous voulez, de mener des relations, voire même d'être altruiste. C'est pour ça d'ailleurs que dans les conférences que je vais vous proposer d'ici quelques temps, il y en a une qui sera sur les phénomènes de solidarité et d'altruisme que l'on peut trouver, voire de coopération jusqu'au commerce que l'on peut trouver dans le cas du fonctionnement du vivant, du côté d'un certain nombre d'espèces animales. Nous devons d'abord nous penser dans l'ordre des mammifères, dans l'ordre des primates, donc dans l'ordre de l'animalité. Et c'est en tant qu'animaux que nous avons la raison, la pensée, le libre arbitre. Parce que par ailleurs, à travers ce que je vous explique là, je n'enlève pas grand-chose à l'homme si ce n'est la vanité de se considérer seigneur et maître de l'univers. Dans ce que je vous explique là, je n'enlève rien à l'homme comme faculté. Je ne lui enlève pas la raison, je ne lui enlève pas l'art, je ne lui enlève pas l'imagination, je ne lui enlève pas la pensée, la philosophie, la poésie, l'amour, le sentiment, la générosité, l'altruisme, ni la capacité à génocider son prochain aussi, il ne faut pas l'oublier, ça participe, on va dire, du tout de l'homme. Non, la seule chose que je retire à l'homme, c'est l'orgueil de se penser seigneur et maître de la création. En reconnaissant que des animaux sont capables de cognition, sont capables de mémoire, sont des sujets sensibles, sont confrontés à des problématiques existentielles comme nous, je n'enlève rien à l'homme. Je ne fais qu'élargir ce que on avait perçu depuis très longtemps pour l'homme. Je ne fais que l'élargir à d'autres espèces parce qu'on s'est rendu compte qu'elles aussi partageaient ces cadres d'existence, ces cadres de fonctionnement en tant qu'être vivant, avec évidemment leur manière à elles de le vivre, comme pour nous. Donc je n'enlève rien à l'homme en disant cela, je ne suis pas en train de déshumaniser l'homme, je suis simplement en train de dire que ces facultés-là, pour nous ou pour les animaux, doivent désormais se penser dans ce type de rapport. Donc oui, il y aura des différences. Donc je ne nie pas les spécificités humaines, je ne nie pas les différences entre nous et d'autres espèces animales, je ne fais que dire qu'entre nous, ces différences-là doivent se penser à partir des cadres que je vous ai présentés. Donc c'est la fin d'une frontière entre l'animal et l'homme, tout simplement parce que l'homme, l'homo sapiens, est un animal, sauf que comme tous les animaux, il a des caractéristiques spécifiques qu'on ne retrouve pas du côté des autres espèces animales. Au même titre que les éléphants ont des caractéristiques qu'on ne retrouve pas du côté, je sais pas, des pachydermes. Au même titre que les papillons ont des caractéristiques qu'on ne retrouve pas du côté des scorpions. Au même titre que les scorpions ont des caractéristiques qu'on ne retrouve pas du côté des baleines bleues. Donc c'est la fin des frontières entre l'animal et l'homme. C'est la fin, en quelque sorte, d'un grand partage ontologique remontant à la nuit des temps, qui donc, sous l'angle de l'humanisme moderne, n'enlève rien à l'homme, mais permet de reconnaître, non pas par générosité, non pas par sensibilité, non pas par, je ne sais pas quelle autre raison, par exemple utilitaire, mais reconnaître aux animaux un certain nombre de facultés et de principes, parce qu'on a pu constater qu'effectivement, ils les avaient bien. D'où cette notion que je vous ai présentée en introduction de réhabilitation ontologique de l'animal, c'est-à-dire cette égalité ontologique au point de vue de la biologie, au point de vue de ce que sont les animaux comparés à l'homme, puisqu'entre nous et les autres animaux, nous pouvons dire que nous avons une ontologie animale commune. Nous ne sommes pas hommes parce que nous avons renié notre animalité, bien au contraire. Nous sommes hommes parce que nous assumons les caractéristiques de notre animalité, et c'est en les assumant que nous sommes humains. Ce n'est pas en reniant notre animalité que nous nous humanisons. N'oubliez pas que c'est aussi notre animalité qui nous dote du libre arbitre. C'est aussi notre animalité, par la corporalité, qui nous dote de toutes les facultés cognitives qui sont les nôtres. C'est pour ça que l'animal n'est pas inférieur à l'homme, il est juste différent de nous, dans sa réalité biotique et existentielle. Tout comme, finalement, un autre animal le sera d'un autre animal. Donc c'est une différence en termes d'une égalité dans la catégorie, en quelque sorte, permettez-moi de le dire de cette manière-là, et non plus une différence hiérarchique entre des catégories qui seraient séparées par un fossé en termes de nature, en termes d'essence. Une des conséquences de ce que je vous explique là, c'est qu'il faut arrêter de chercher comme une sorte de saint graal anthropologico-religieux, métaphysico, tout ce que vous voulez, il faut arrêter de chercher le propre de l'homme. Parce qu'il n'y a pas de propre de l'homme en soi. Il n'y a pas d'essence spécifiquement humaine en nous. Là, c'est une notion à déconstruire totalement. Le propre de l'homme, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, comme on pourrait le dire, le propre de l'ornithorynque, c'est quoi ? C'est la somme de ses caractéristiques biologiques, physiologiques, psychologiques, émotionnelles, intellectuelles, mentales, cognitives, éthologiques, etc., etc. Tout comme la girafe, les tardigrades ou les hippopotames. Donc le propre de l'homme, il existe comme il existe un propre de l'autruche. Mais ce n'est pas un propre en soi, c'est juste la somme de ses caractéristiques. C'est pour ça qu'il faut absolument dénoncer, dans le cadre d'une pensée qui se voudrait contemporaine, on ne va pas aller faire de reproches aux personnes de l'Antiquité, aux penseurs de l'Antiquité, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes connaissances que nous avons, ils n'avaient pas les mêmes reculs au point de vue de la, ne serait-ce que la compréhension de la biosphère, donc il ne faut pas faire d'anachronisme. Il faut replacer, quand on fait la critique d'un auteur, il faut le replacer dans l'horizon des connaissances de son époque. Ce qui serait très différent si par contre aujourd'hui, il y avait encore des gens, et il y en a encore, donc je pense que nous aurons quelques, pourquoi pas, beaux frittages philosophiques là-dessus, il y en a encore qui défendent l'idée d'un propre de l'homme. Au sens d'un propre en soi, différent par principe de l'animalité. Parce que je ne nie pas l'idée qu'il y ait un propre de l'homme. Ce que je nie, c'est l'idée d'un propre de l'homme fondée sur une sorte de dichotomie métaphysique. Dans ce que je vous explique, le propre de l'homme, ce n'est que la somme des caractéristiques qui nous font ce que nous sommes. Donc l'homme ne préexiste pas à l'homme. L'homme, c'est quand vous additionnez toutes les caractéristiques, y compris sur le fait social, y compris sur le fait culturel. Dans le fait d'être les individus que vous êtes, vous avez des données physiologiques, biologiques, mais vous avez aussi des données culturelles. Vous êtes né à une certaine époque, dans une certaine société. Vous n'êtes pas né il y a 20 000 ans, dans une autre culture, dans une autre société. Donc dans ce que vous êtes en tant qu'individu aujourd'hui, tous ces éléments-là s'additionnent et interagissent pour former l'être que vous êtes. Donc je ne dis pas que ce que vous êtes, c'est la somme de vos actes, pour revisiter quelqu'un d'autre. Je dis que ce qui nous définit dans ce que nous sommes, ce n'est pas un en soi qui tomberait là sur terre comme tel, posé comme tel, c'est simplement l'ensemble des caractéristiques qui nous font. Ce qui fait que si notre espèce évolue, comme elle a évolué dans le passé, eh bien l'ensemble des caractéristiques qui nous formera à ce moment-là, sera modifié parce qu'il y aura de nouvelles caractéristiques ou des caractéristiques qui disparaîtront ou qui seront modifiées. Puisqu'il faut aussi penser le fonctionnement des êtres vivants dans la dynamique évolutive des espèces. C'est ce qui fait que si l'homme est ce qu'il est, c'est en vertu d'une certaine évolution, non pas en vertu de ce qu'il devait être ou de ce qu'il doit être. Et là, ça aura des conséquences quand on va aller vers des implications du côté de ce qu'on appelle l'éthique animale très importante, parce que ça signifie que si nous, les Homo sapiens, nous dominons et exploitons d'autres espèces, et quand je dis cela, je ne dis pas qu'on ne doit pas le faire. Comme je l'ai dit, je ne rentre pas dans ce type de réflexion ou de débat avec des conclusions dans un sens ou dans un autre. Si nous le faisons, ce n'est pas parce que Dieu le veut, ce n'est pas parce que l'ordre cosmique l'a voulu, ce n'est pas parce que l'architecte suprême l'a prévu, c'est simplement parce que nous sommes les plus forts. Donc si l'homme domine les chevaux, si nous utilisons les abeilles pour pouvoir manger du miel, ce n'est pas parce que c'est un droit, c'est simplement parce que nous sommes les plus forts. Car dans la nature, la notion de droit n'existe pas. La notion de droit est une notion qui n'apparaît que avec un fonctionnement comparable à celui de notre espèce. Donc vous pouvez ensuite avoir l'avis que vous voulez là-dessus, s'il faut continuer ou pas. Moi, ce que je vous dis, c'est simplement que si nous tuons pour nous nourrir, ce n'est pas parce que nous en avons le droit, ça n'a pas de sens en réalité, c'est une affirmation insensée, c'est juste parce que nous sommes les plus forts. Les rapports dans le vivant sont d'abord dominés par des rapports de force, pas par des rapports de droit. Le jour où on sera dans un contrat social, pourquoi pas entre espèces, oui, mais dans les rapports entre les organismes vivants, à la base, ce ne sont que des rapports de force, pas des rapports de droit. Si l'homme a domestiqué les chevaux, les dromadaires, et là vous pouvez ouvrir une sorte d'immense arche, non pas de Noé, mais de domestication, ce n'est pas parce qu'on avait le droit de le faire, ce n'est pas parce que nous le méritions, c'est juste parce que nous avions les capacités factuelles de le faire, c'est-à-dire que nous en avions le pouvoir. Et en cela, ce n'est pas différent du lion qui attrape la gazelle pour se nourrir. Et en cela, ce n'est pas différent, je ne sais pas, de certaines lianes qui, par exemple, pour atteindre la lumière, vont s'entourer autour d'un arbre, quitte à le tuer. En ce sens-là, ce que fait l'homme dans ce rapport de domination à l'égard des autres espèces est un fonctionnement tout à fait naturel et conforme au rapport que l'on a entre les proies et les prédateurs. D'un point de vue anthropologique, nous sommes, en tant qu'espèce, ce qu'on appelle un prédateur universel. Après, on pourra ne pas être d'accord avec le fait de se comporter comme ça, mais ça, ce sera un autre niveau dans le raisonnement. Quand je dis prédateur universel, ce n'est pas un jugement moral, c'est un aspect factuel dans les capacités et les propriétés de l'espèce concernée. C'est-à-dire que dans un environnement donné, elle va être au sommet de toutes les chaînes alimentaires ou de toutes les chaînes d'exploitation des autres espèces qui existent dans son environnement. Tout comme, par exemple, les fourmis le font à leur échelle dans le cadre du monde des insectes. C'est pour ça que lorsqu'on prend conscience de ce que je vous explique, on peut considérer que l'apparition de ce que je vous ai présenté tout à l'heure comme étant des éthiques animales, c'est-à-dire non pas le fait que des animaux aient des comportements éthiques, là on n'est pas dans la ferme des animaux de George Orwell, mais plutôt des réflexions venant historiquement des philosophes sur la manière de se comporter à l'égard des animaux, hein, c'est ça ce qu'on appelle l'éthique animale, eh bien on peut comprendre que c'est un ensemble de réflexions, peu importe le détail du contenu, mais on ne peut pas faire autrement, quand on comprend ce que je viens de vous expliquer, que d'aller vers l'émergence d'éthique animale. Et c'est pour ça que les premières éthiques animales développées par des philosophes l'ont été en fait uniquement dans les années 70. Les années 1970. C'est pour ça que tout à l'heure, je l'ai présenté en introduction, je vous renvoie comme repère historique à la publication par Tom Regan de son ouvrage « Le droit des animaux », où en 1975, c'était Peter Singer, c'était son ouvrage qui s'appelait « La libération animale », qui parmi les, ils ne sont pas les seuls, mais disons les personnes qui ont contribué à faire émerger la notion d'éthique animale, cette rupture intervient dans les années 70. À tel point d'ailleurs que Derrida parlera, dans cet ouvrage qu'il publiera à la fois sur la question de l'animalité et de l'humanité, il parlera d'ailleurs de l'émergence même de zoopolitique, c'est-à-dire de politique à l'égard des animaux, c'est-à-dire sur la question du droit des animaux, qui est un sujet qui aujourd'hui est très débattu et qui va l'être de plus en plus parce qu'on ne peut pas faire autrement dans nos états technologiques, culturels, civilisationnels et scientifiques, et philosophique, on ne peut pas faire autrement que d'en débattre, parce qu'on arrive inéluctablement à ces questions-là à partir des évolutions, comme je vous l'ai dit, culturelles, scientifiques et philosophiques que je vous ai présentées. Je ne présume pas en disant cela quelle sera la réponse qu'à un moment donné tel pays donnera. Je dis que le fait de poser désormais ces questions-là sur le devant de la scène de la réflexion philosophique, eh bien, on ne peut pas faire autrement, parce qu'on en arrive. Quand vous revenez aux fondamentaux du vivant, quand on comprend les implications philosophiques de la compréhension moderne du vivant dans la révolution biotique, c'est-à-dire par rapport à ce qui fait qu'un organisme vivant est un organisme vivant, qui est finalement sa propre fin, qui vit pour lui, qui recherche ses propres fins en tant qu'organisme vivant, ça veut dire en fait que ce que nous appelons les droits de l'homme ne sont qu'une déclinaison spéciste, c'est-à-dire liée à notre espèce, de droits plus fondamentaux qui sont les droits du vivant pour les organismes vivants. Ce n'est donc pas à partir des droits de l'homme que je pense les droits des animaux, c'est à partir de la notion de droit naturel que j'en viens à parler, dans le cadre de nous, les Homo sapiens, de la notion des droits de l'homme, mais pour les autres espèces, les mêmes principes aboutissent à définir des notions similaires, adaptées aux caractéristiques de ces espèces-là. C'est pour ça que ce n'est pas à partir des droits de l'homme qu'il faut aller vers le droit des animaux, c'est à partir de ce qui fait le droit naturel dans le cadre de notre espèce que, simplement, quand il s'agit d'autres espèces, on arrive à faire émerger des principes liés aux caractéristiques de ces espèces. C'est pour ça qu'en amont des droits de l'homme, je ne parle pas de la construction historique, mais les principes, ce sont des critères d'espèce. Qui dépendent de quoi? Des grandes organisations de l'espèce concernée, et ce qui est valable pour nous est valable sur le même principe pour tous les autres animaux, pour tous les êtres vivants. Sauf qu'ensuite, les autres êtres vivants ne vivent pas dans des implications où il peut y avoir la moindre signification à la notion de droit. C'est pour ça que les droits de l'homme ne sont que le dérivé, dans le cadre de l'histoire de l'humanité, le fonctionnement de l'humanité, de droits plus fondamentaux qui leur sont donnés non pas parce qu'ils sont humains, mais d'abord parce qu'ils sont des êtres vivants. notamment le droit à la vie, le droit à l'existence, ne nous est pas dû parce que nous sommes des êtres humains, mais parce que nous sommes des êtres vivants qui sont leur propre finalité, qui poursuivent leur propre fin et dont leur vie est leur propre achèvement. Donc voilà, je suis à peu près arrivé à la conclusion de ce que je comptais vous présenter aujourd'hui. Ce que vous pouvez retenir pour la conclusion, c'est que, comme j'avais énoncé un petit peu en introduction, la révolution animale est de fait aussi une révolution anthropologique. Ce n'est pas forcément ce qui est recherché, mais ça aboutit à cela. Parce que n'en déplaise à Descartes, excusez-moi la formule, hein, c'est simplement pour utiliser cette formule pour la conclusion, je n'en fais pas un reproche à Descartes, n'en déplaise à Descartes, l'homme n'est plus le seul animal doué de raison. N'en déplaise à Rabelais, pour changer en quelque sorte de tête de philosophe, l'homme n'est pas le seul animal doué de la capacité de rire, puisque Rabelais disait que le rire est le propre de l'homme. N'en déplaise à Lévi-Strauss, pour aller vers quelques modernes, l'homme n'est pas le seul à observer le tabou de l'inceste, puisque Lévi-Strauss disait que l'homme est le seul être qui observe le tabou de l'espèce. On l'a pensé pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on rende compte que du côté, par exemple du côté des primates, je vous en reparlerai, on peut observer des comportements qui mettent en place, alors je ne pense pas que ce soit pensé comme un tabou pour eux, mais par une sorte donc d'empêchement, au besoin coercitif, d'accouplement entre les mâles et leurs propres filles dans les fonctionnements de leurs groupes sociaux. Donc, n'en déplaise, allez, trouvons par exemple Thomas Huxley, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui pour autant avait défendu une continuité de l'animal à l'homme. Thomas Huxley disait que l'homme était le seul animal doué de sens moral. Hein, c'était une expression qu'il avait utilisée. Il disait que l'homme est le seul animal moral. Alors qu'aujourd'hui, nous savons que les notions. Alors évidemment, il faut ensuite le replacer dans le contexte des espèces concernées, mais notamment du côté des chimpanzés, notamment du côté donc, de ce type de primates, on voit des fonctionnements qui relèvent en tout point de sens moral, de critères d'évaluation du bien et du mal, même si évidemment les prédicats du bien et du mal ne sont pas forcément les mêmes. En tout cas, nous savons qu'énormément d'espèces de primates, et pas forcément les plus proches de nous, comme les chimpanzés, les gorilles ou les bonobos, sont très sensibles à l'injustice, à l'inéquité, par exemple, dans la répartition des récompenses qu'on leur donne pour le même travail, jusqu'à se mettre en grève si on ne leur donne pas la même qualité de récompense qu'on donne à leurs autres congénères pour le même travail effectué. Puisqu'ils sont parfaitement capables de faire la différence entre ce que l'on leur donne comme récompense quand, par exemple, on leur demande de faire quelque chose, et que ce qu'on leur donne n'est pas du tout conforme en qualité à ce que le voisin d'à côté a. Je pense que vous comprenez que ce que je viens de dire par rapport au rire, par rapport au sens moral, par rapport au tabou de l'inceste, on pourrait le prolonger sur la culture, les outils, les médecines, les addictions, l'homosexualité et toute une série d'autres notions que pendant très longtemps on pensait comme étant spécifiques à l'homme. C'est pour ça donc que ce nouveau statut, comme je vous l'ai expliqué, pour l'animal, est aussi un nouveau statut anthropologique. Parce que nous resterons hommes avec tout ce que je vous ai dit, sauf que désormais, nous serons un animal, peut-être différent des autres dans les caractéristiques que nous avons, mais en tant qu'animal, nous serons un animal comme les autres. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour commencer à rentrer dans le noyau dur de certaines problématiques, la question de la condition animale. En d'autres termes, la notion d'existence appliquée aux animaux. Alors que d'habitude, l'existence, elle était le propre de quoi? De l'homme.